Bonjour, merci pour votre intervention, mais j'aimerais revenir sur l'utilisation des failles que le mécanisme a par les États pour échapper à telle ou telle problématique qu'ils ne voudraient pas évoquer lors de leur examen. Compte tenu des leçons tirées du premier cycle, quelles sont les mesures ou quelles sont les progrès qui ont été faits dans le sens de déjouer le jeu des États pour que le mécanisme ait moins de failles que possible. Ma seconde question concerne l'évaluation des recommandations mises en œuvre. Comme dans ce second cycle, le deuxième cycle plutôt, l'essentiel est d'abord de faire un état de lieu des recommandations faites lors du premier passage. Quel est l'impact sur ce fait dans les pays où il y a eu rupture? Je peux prendre l'exemple sur la Tunisie où lors du premier passage, c'était Ben Ali, et le second passage a eu lieu dans un contexte totalement différent. Mais aussi le cas de mon pays, la Guinée. Notre premier passage était en 2010 et nous passerons pour le second en 2015, sauf que le contexte politique est totalement différent. Donc, pour résumer ma question, quel serait l'impact de l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations pour les pays où il y a eu rupture politique entre le premier et le deuxième passage? Je vous remercie.
Merci. Je vais prendre d'autres questions.
Oui, bonjour Roland, c'est Gloria Ramirez à l'appareil de Mexique. On était en contact. Et donc, pour les Mexiques, entre les premières et les deuxièmes siècles, il y a beaucoup de changements. Je voulais une question tout d'abord en ce qui concerne ce passage. S'il n'y a pas eu de bilan en général, est-ce que c'était beaucoup plus favorable de ne pas en avoir pour pouvoir continuer? Ou bien est-ce que on n'a pas voulu changer aucune modalité et entre les passages de première en seconde par rapport au conseil? Et en ce qui concerne particulièrement ce que tu as dit me semble très intéressant par rapport à les diverses recommandations qui sont très vagues. Comment peut-on changer? Enfin, nous avons essayé de demander de faire beaucoup plus de lobbying auprès des États pour concrétiser les recommandations. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est aussi les rapports, entre les rapports qui fait, pas seulement les rapports des résumés des États, mais aussi les rapports de tous les autres mécanismes des Nations Unies. Parce que il faudrait peut-être une recommandation du Conseil, oui, à relier tous les autres mécanismes avec les mécanismes, avec l'appui. Parce que tant qu'ils ne sont pas reliés, et je pense qu'ils s'approchent, parce que j'ai vu les rapports qu'il a fait sur le Mexique et tous les mécanismes, c'est très intéressant, ça donne beaucoup d'idées à les États. Mais ils sont pas pris en ils ne prennent pas de recommandations concrètes. Par exemple, sur l'harmonisation. On dit l'harmonisation, mais ça veut rien dire comme ça. Il faut être beaucoup plus concrète. Comment peut-on faire pour cela?
Voilà, merci. Donc, c'est Fatima Tassi du Sénégal. Je voudrais d'abord vraiment vous féliciter pour cette brillante présentation. Moi, je vais parler du cas du Sénégal, qui va passer d'ailleurs le 21, et évoquer un peu ce problème de manque d'implication des organisations de la société civile, c'est-à-dire la non-tenue des consultations nationales. Souvent, le Sénégal, quand même, s'engage pour beaucoup de recommandations ont été acceptées. Par exemple, pour toutes les recommandations qui sont relatives aux droits humains des femmes et des enfants, ont été acceptées en 2009, lors du passage du Sénégal. Mais le premier problème, c'est que d'abord, les organisations n'étaient pas au fait de ce processus d'appui. Il y a eu quelques organisations qui ont participé en 2009, mais qui n'ont pas fait de restitution. L'État n'a rien fait par rapport à ça jusqu'à partir du mois de juillet, où vraiment, avec sous l'impulsion du bureau régional du Haut Commissariat aux droits de l'homme, ils ont commencé à tenir des ateliers. Là, entre-temps, au niveau de notre organisation Réseau Equitas Sénégal, nous avons lancé ce processus quand même de sensibilisation des organisations sur l'EPI depuis 2011 avec l'appui de l'OIF et de Equitas Canada. Et nous avons essayé de mener un processus d'abord pour vraiment réunir les organisations autour de ce processus-là. Nous avons organisé 3 dialogues en partenariat avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Mais bon, au finish, quand même, nous venons de mettre sur pied une coalition qui regroupe actuellement 14 organisations de la société civile pour le suivi de l'EPU. Mais nous avons été gagnés par le temps de telle sorte qu'il n'y a pas eu de rapport vraiment adressé. On était gagnés par les délais, donc on n'était pas dans les délais pour envoyer un rapport au niveau du Haut Commissariat. Dans les consultations, pourtant, nous avons interpellé et le gouvernement, via la Direction des droits humains, et le Haut-Commissariat pour que, lors des prochains ateliers qui étaient prévus par le gouvernement, qu'on puisse impliquer les organisations de la société civile. Ça n'a pas été fait. Et c'est lors du dernier atelier de validation du rapport qu'ils ont convié quelques organisations de la société civile et produit un rapport que les organisations auraient pu compléter en termes d'avancée. On était plus au fait sur les questions. Donc, concrètement, aujourd'hui, le Sénégal va passer le 21. Nous n'avons pas la possibilité de participer. Mais en mars, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on pourrait arriver à figurer parmi les 10 organisations qui pourront participer au débat ou en tout cas prendre la parole en mars prochain? Maintenant, l'autre chose, c'est un peu, je ne sais pas si on n'en parle pas, mais il y a un problème de moyens aussi. Souvent, l'État prend des engagements dans la mise en œuvre des recommandations. Par exemple, pour le cas du Sénégal, où on a aujourd'hui la loi sur la parité dans les instances électives, on vient de renouveler le bureau de l'Assemblée nationale, où cette parité-là n'a pas été, en tout cas à ce niveau-là, sur le bureau de l'Assemblée nationale n'est pas paritaire. Maintenant, il y a un observatoire national sur la parité à qui on a donné vraiment des pouvoirs étendus, mais sans moyens, ça pose problème. L'Institution nationale de droits humains, le Comité sénégalais des droits humains également, qui n'a pas assez de moyens. Donc souvent, l'État met sur pied des institutions nationales de droits humains auxquelles il ne donne pas des moyens du tout. Donc finalement, bon, c'est un problème d'effectivité qui se pose chaque fois. Merci.
So, you'll answer the first round of 3. And then we'll do one more round with your shorter questions so that more people can answer and you'll be able to leave. Thank you.